Bonjour, donc sur Radio Remeleleu, ici au village, sur le web et à la cafétéria Gallia, si j'ai bien compris, un petit plateau ce matin autour de l'accessibilité et du logiciel libre. Pour ceci, nous recevons Marie-Pierre Bigeon, qui va faire une conférence qui a pour titre Audition et logiciel libre à 14h cet après-midi, et également Rémi Samier, qui passe une conférence dans la foulée à 14h20, Enjeux du libre en orthophonie pour les troubles 10. Et m'accompagne également Franck Pavard de La Voix du Libre, je crois que c'est au Québec, je ne sais pas dans quelle ville exactement.
Je m'appelle Yannick Pavard, en fait,
Yannick,
parce qu'on
autant
n'a
pour
pas eu
moi.
le temps de beaucoup se donner d'informations, parce que je me suis un petit peu éclipsé avant le début de l'émission. Effectivement, je viens du Québec, j'anime une émission qui s'appelle La Voix du Libre, donc ça me fait tout drôle d'être à 5 000 km et de faire une autre émission de radio. Donc je vais t'accompagner pendant peut-être la demi-heure ou l'heure qui suit. Peut-être que j'aurai des questions pièges peut-être à poser à tes invités.
Oui, de nous deux, c'est toi le plus pro. Je propose de commencer avec le projet de Marie-Pierre. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter, en fait, quel est ton parcours, d'où tu viens, ton parcours par rapport au logiciel libre?
Bonjour. Moi, j'ai abordé les logiciels libres. Je me souviens, c'était en 2004, je crois, parce que à cette époque-là, je travaillais pas, mais j'étais très intéressée par toutes ces techniques-là. Et j'avais entendu parler du libre, et à cette époque, j'avais commandé chez Canonical justement un CD, c'est la version Dapper d'Ubuntu, et c'est à partir de là que j'ai démarré. Et depuis, après, j'ai continué là-dedans, et voilà, je suis utilisatrice, hein, simplement. Hein.
D'accord. Et un jour d'utilisatrice, tu es partie vers une direction
Ouais.
qui consiste à porter un projet, manifestement.
Ben oui, ça a un peu changé, évolué. Effectivement, bon, je me disais que ces logiciels libres avaient beaucoup de potentiel et pouvaient permettre de faire autre chose que ce que je faisais d'habitude au quotidien avec mon ordinateur, et qu'il y avait des pistes à explorer, surtout dans le domaine de l'audition, qui est un domaine qui me concerne maintenant de très près. Voilà.
D'accord, donc quand est-ce que, en fait, tu as eu l'idée de ton projet?
L'idée, elle est venue petit à petit, parce que comme j'utilisais beaucoup les logiciels libres et surtout l'ordinateur pour écouter, pour visionner des émissions ou des vidéos, je m'étais aperçue à un moment donné, j'utilisais le lecteur VLC, puis je m'étais aperçue que dedans il y avait un outil qui s'appelle l'égaliseur, et que quand je réglais cet outil, j'arrivais, ça me permettait d'améliorer la compréhension des émissions que je regardais. Et au fur et à mesure, je me dis, mais c'est super, ça, c'est génial. Finalement, je l'utilisais quasiment tout le temps. Et après, à partir de ça que je suis rentrée dans ces choses-là. Je connaissais un peu le domaine de la musique. Enfin, je connaissais. J'étais au courant de ce qui se passait en musique assistée par ordinateur. Et c'est vrai que quand on ouvre aussi Audacity, on a tout un panel d'effets qui est proposé. Et je me disais, mais ces effets, qu'est-ce qu'ils font? Et si les musiciens, ils arrivent à modifier leur musique. Et pour faire quelque chose qui leur convient, est-ce que moi je peux pas modifier le son que j'entends pour faire quelque chose qui me convient? Donc c'est de là qu'est partie l'idée, après, de dire il faut explorer ces pistes pour essayer d'améliorer l'audition.
Est-ce que ça change quelque chose au fait que ce soit sous Linux ou Windows? Parce que là, pour l'instant, tu parles de technique, de logiciel, mais c'est pas la plateforme. Ou le fait que ce soit un logiciel libre, est-ce que
Eh
ça
bien,
apporte quelque chose de nouveau?
j'ai pas essayé dans d'autres configurations, parce que chez moi, je travaillais avec Linux. Par contre, je sais que j'aurais jamais pu faire ça dans un autre environnement, sachant que toutes les aides que j'ai obtenues, tous les soutiens, enfin, je veux dire, toutes les réponses à mes questions techniques, je les ai obtenues dans l'environnement, avec la communauté, tout ça, où il y a possibilité d'avoir. D'être aidé, tout simplement. Et dans l'environnement Windows que je connais, si, j'utilise dans le milieu professionnel, mais je connais pas d'interlocuteur susceptible de m'aider dans ce domaine-là. Alors que là, il y a effectivement des endroits, des lieux où on peut en discuter, des groupes de travail où on peut parler de ça. Voilà.
Donc ton projet prend corps l'année dernière, en
Ouais,
2010.
ouais.
Tu es allé au Remeleleu, je crois.
Oui, parce que bon, ce projet-là, au départ, j'ai essayé de trafiquer toute seule dans mon coin, avec mon ordi, puis j'avançais pas beaucoup, j'avançais pas du tout. Je me suis dit, bon, quand même, là maintenant, il faut que je passe à la vitesse supérieure, et il faut que j'aille voir les gens qui sont susceptibles justement de m'aider. Et c'est là où j'étais. Bon, Bordeaux, c'était pas loin de chez moi, j'y suis allée, j'ai rencontré le groupe de travail qui m'a dit, mais poste sur la liste. Et à partir de là, bah, ça, ça a démarré. J'ai eu des réponses très pertinentes qui m'ont bien aidée pour démarrer dans le truc.
Donc le groupe de travail dont tu parles, c'est le fameux groupe accessibilité de l'April qui se réunit tout à l'heure pour une table ronde, qui s'est réuni hier pour un groupe de travail, groupe hyperactif, bien souvent centré autour du handicap visuel, avec ensuite des extensions sur les autres handicaps, ça commence à arriver. Ouais. Toujours, on en avait parlé l'année dernière avec Samuel, le handicap mental qui reste encore un endroit où on a des terrains à explorer et des choses à défricher.
À défricher.
Donc, tu es accueilli dans la groupe accessibilité de l'April. Tu arrives en fait avec pas un niveau énorme en audio, beaucoup de questions. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait après ?
Alors après, le fait d'avoir présenté ce projet au groupe et d'avoir, j'irais, exposé mes soucis, mais ce que j'essayais de faire et ce que j'avais envie de faire, a fait que des gens se sont intéressés, m'ont dit « mais tu pourrais essayer cette piste-là, tu pourrais tester ça, il faudrait que tu ailles voir, voilà ». Et donc petit à petit, moi de mon côté, j'ai récupéré ces informations-là techniques, j'ai essayé de les mettre en œuvre avec plus ou moins de bonheur, mais quand même avec un petit peu de bonheur, ce qui fait que ça avançait et donc c'était avant que je vienne à ces rencontres en fait, c'était complètement, j'arrivais pas à faire, ça marchait pas. Et ben après ça marchait, voilà, c'est ça la magie.
Rémi, tu parlais du groupe ici, là c'est surtout à travers Internet et une liste de discussions finalement que se font les échanges. Ma question c'est, est-ce que ça, en dehors des RMLL, est-ce qu'il y a des rencontres physiques qui se font avec des personnes de la liste, peut-être pas pour l'instant parce que ça fait
Il y en a eu une en janvier dernier, c'était un barcamp accessibilité qui m'a aussi bien aidé parce que j'y ai rencontré une personne qui était intéressée aussi par ce projet-là et qui était susceptible même d'utiliser ce projet-là pour lui-même, donc ça soutient un peu d'avoir d'autres personnes qui disent ah bah oui ça peut m'aider moi aussi. Ça aide.
Quand tu parles de personnes comme ça, est-ce que c'est quoi exactement le type de compétences que tu cherches? Est-ce que c'est des développeurs à tout prix? C'est des gens qui ont les mêmes problèmes? C'est des gens qui sont experts en audio, ingénieurs audio?
Oui, il faudrait tout.
C'est un peu de tout.
tous ces besoins-là. Moi, au départ, j'avais que mes compétences d'utilisatrice de Linux et j'avais aussi les compétences. Je connais le handicap que je souhaite prendre en charge. Je le connais bien sur le plan médical. Je sais ce que ça donne, ce que ça implique, et je connais les symptômes, bien entendu, qui sont à prendre en charge. Et après, toute la partie audio, toute la partie technique audio, tout ça, je ne connaissais pas du tout. Et toute la partie développement. Mais globalement, moi, j'en ai pas. Enfin, j'en aurais peut-être besoin un jour, mais dans les médias, tout ce que j'utilise, ça existe déjà. Je n'ai jamais eu besoin de créer quelque chose spécifique pour le moment. Hein. Là, avec tous les outils existants, j'arrive déjà à avancer et à construire quelque chose avec ce qui existe déjà. C'est pour ça que le potentiel est encore à explorer.
En fait, tu résumes une interrogation d'énormément de gens. En fait, sur une nouvelle technologie ou sur quelque chose que je veux faire avec le logiciel libre, comment rentrer dans la technologie, comment trouver le bon contact, comment trouver la personne ou les personnes qui vont m'envoyer sur le bon chemin pour rechercher, parce que les chemins sont assez nombreux. Et ce qui t'est arrivé là sur la liste de diffusion de l'April, c'est à peu près ce qu'il te fallait quoi, pour le projet.
Oui, c'est ce qui m'a permis d'avancer et d'aller au-delà de mes blocages que j'avais avant, oui.
Alors, tu es une exploratrice née. On te remplit sur la liste April de notions que tu ne connais pas.
Ah, c'est clair.
On t'explique ce qu'est un compresseur, ce qu'est un noise gate, à quoi ça sert un égaliseur. On te parle de traitement du signal. On te parle de perception du son, des choses qui intéressent les gens de radio, qui intéressent les techniciens du son en général. Et puis, tu pars à l'exploration.
Oui, c'est ça. Oui, c'est partir vraiment explorer tout ça pour voir ce que je peux faire avec, quelles sont les potentialités. J'imagine que je ne suis pas arrivée au bout. Hein. Il y a encore plein de choses à explorer.
Et tu essayes sur toi-même, en fait, premier public, c'est toi.
Voilà. Ben, je suis... je teste sur moi-même, effectivement, ce que je cherche à traiter.
D'accord.
Donc, c'est la facilité, je dirais, pour moi, d'être dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'à la fois, je propose des techniques de prise en charge, mais à la fois, je les teste moi-même, je les utilise pour dire bah, ça me convient, ça ne me convient pas. Alors, c'est vrai que c'est très axé sur un cas clinique très particulier, mais je pense que ça peut aussi être utilisé dans d'autres situations cliniques.
Hein. Du coup, quand tu regardes la télé chez toi, comment ça se passe?
Alors... quand je regarde la télé
une
chez
question
moi...
Question à peine préparée.
Oui, non, mais parce que... Alors, il fut une époque où je me faisais expulser du canapé quand on regardait des vidéos en famille parce que j'avais pris en otage la télécommande de volume et puis quand il y avait une bande sonore qui me cassait les oreilles, ben moi je baissais le son à toute vitesse.
Moi je fais la même chose à la maison avec les publicités dès que c'est trop fort.
Voilà, les publicités, bon il y a plein, voilà. Et puis par contre dès que la bande sonore s'arrêtait puis qu'il y avait des dialogues, il fallait que vite que je remonte le volume pour arriver à comprendre les premiers mots du dialogue. Et puis évidemment, au bout d'un moment, on m'a dit « Non, c'est bon, là, t'arrêtes. Tu... on m'a kidnappé la télécommande, j'avais plus accès. » Et puis, j'essayais de suivre comme je pouvais, mais c'est vrai que c'était pénible. Et j'arrivais difficilement à suivre une vidéo en entier, parce qu'au bout d'un moment, j'en avais ras-le-bol, parce que je ratais la moitié des... Soit je me faisais casser les oreilles au moment des effets sonores, soit je ratais la moitié des dialogues. Donc c'était un peu pénible, et j'ai dit « Bon, je laisse tomber, c'est pas possible. » Jusqu'à ce que j'ai trouvé la solution... qui me permettait en fait de récupérer le son directement derrière la box, de l'envoyer sur mon PC, de l'envoyer dans la machine et de mettre les effets dessus, égaliseur, compresseur. Mon compresseur qui me permettait d'éviter de m'arracher les oreilles dès qu'il y avait un effet sonore un peu violent. Et puis l'égaliseur qui me permettait d'améliorer l'intelligibilité des dialogues. Et ça, c'était essentiel. Et donc, dans mon coin, non, parce que là, je pouvais être à nouveau, j'avais ma place sur le canapé, et je pouvais quand même visionner les vidéos en famille sans gêner les autres et sans être gêné moi-même par ce que j'entendais. Voilà.
Et tu pointes du doigt une grosse difficulté du handicap sonore, auditif, ouais. Qui est toute une série d'aspects sociaux. Dans la relation à l'autre,
voilà, forcément, ça, je veux dire, dans la mesure où le bruit gêne, enfin globalement toutes les ambiances sonores bruyantes ou quand il y a plusieurs personnes sont gênantes, fatigantes, on tend à les éviter, et donc c'est vrai qu'après c'est l'isolement, c'est la perte de contact et tout ça.
Ton PC donc branché sur la télé, tu capitalises, donc si vous cherchez sur votre moteur de recherche favori Audition et logiciels libres et April, tu as fait une belle page de wiki où tu recenses tout ça.
Oui.
Et du coup, tu arrives ici à Bordeaux, à Strasbourg, on est à Strasbourg cette année. Tu arrives à Strasbourg avec un objectif de porter ton projet, donc tu vas faire une présentation cet après-midi. Oui. Et puis, donc, quel est l'avenir un petit peu maintenant du projet? Quels sont les besoins? On va parler un petit peu de matériel peut-être.
Oui. Les besoins, en fait, tout ce qui concerne le traitement des flux que je reçois dans mon ordinateur, ça va, je m'en débrouille bien et ça me convient ce que j'arrive à faire avec les effets. Là, ça me convient. Maintenant, il resterait simplement à aller dehors dans la rue avec mon ordinateur pour voir ce que je peux faire au niveau du son de l'environnement, du son ambiant. Et là, il y a des soucis supplémentaires qui font que je dois capter le son. Il faut que j'aborde le problème technique des microphones. Comment, combien, quel type et comment, enfin bref, comment les régler. Ça, c'est encore un peu opaque pour moi et j'ai pas encore toutes les bonnes options, je dirais, pour tester en direct, dans la rue, le son qui me vient dans les oreilles, et comment je peux le régler, comment, voilà. Ça, je peux mettre un casque, je peux emporter mon PC, je peux avoir deux micros collés à côté des oreilles, mais bon, je sors pas comme ça, non. J'ai jamais... Donc, toutes les situations, c'est des situations expérimentales chez moi, en intérieur, où j'ai pas l'ensemble de l'ambiance sonore que je peux rencontrer quand je suis dans la rue avec des gens, tout ça.
Côté prothèse auditive, donc ton projet pourrait aboutir vers éventuellement des matériaux libres, à part qu'il y a quand même pas mal de limitations.
Oui.
Donc je crois que tu as fait une petite rencontre aussi sur les rencontres cette année.
Oui.
Donc peut-être que des personnes vont te proposer du matériel portable.
Oui, c'est ça.
Tweakable.
Il y a du matériel qu'on peut se promener avec, quoi.
Donc si j'ai bien compris, c'est de l'OpenMoco pour l'instant ou un terminal de ce type-là?
Oui, c'est un format téléphone, quoi, en fait. Et c'est vrai qu'on peut se promener avec et on peut, là, sans difficulté, quoi.
Donc en fait, là, tu commences à rencontrer des personnes intéressées par ton projet.
Oui. Il y a des gens qui disent que ce projet a peut-être un peu d'avenir ou beaucoup d'avenir, je ne sais pas.
Beaucoup,
largement. En tout cas, ce sont des pistes de toute façon à explorer parce que le besoin, il y est. c'est clair. Et je veux dire, il faut rendre les oreilles à celui qui les porte, hein, et pas laisser les oreilles chez l'audioprothésiste pour que c'est lui, soit lui qui fasse tous les réglages. Moi, je veux garder mes oreilles.
Rencontre mondiale
du logiciel libre.
Depuis que je suis dans le libre, j'ai démultiplié mon pouvoir.
Et depuis que je suis dans le libre, j'écoute de la musique métissée quand la Chine rencontre l'Afrique. Boom Boom Africa China, c'était les oreilles en balade. De retour sur le plateau autour de l'accessibilité, autour du son, de la parole, autour de l'audition. Marie-Pierre Bigeon, tu nous as décrit ton projet. On va revenir un petit peu sur tes besoins aujourd'hui. De quoi as-tu besoin? Quel appel aurais-tu à faire à la communauté? Quel appel vas-tu faire cet après-midi, même si on enlève un peu la surprise de la présentation?
Là, mes besoins maintenant, c'est effectivement la partie logicielle, elle est quasiment, elle me satisfait déjà et je peux déjà travailler dessus de façon presque, entre guillemets, autonome, bien que j'ai encore des gros progrès à faire. Et les besoins sont au niveau matériel pour arriver à me promener avec un équipement qui me permet de faire ce que je fais actuellement chez moi avec mon ordinateur. Et alors, c'est vrai qu'hier, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, mais pour les microphones, il faut que tu soudes quelque chose. Enfin bon, pour avoir tes deux entrées droite et gauche. Bon, j'ai rien compris, mais là, je lance un appel. Toute cette partie électronique, je pense qu'effectivement, elle n'est pas forcément très compliquée, mais je sais pas du tout comment il faut faire.
Moi, j'ai une question là-dessus. Quand tu dis que tu as besoin de matériel, de micro, est-ce que c'est à tous les jours ou c'est pour des événements particuliers? Par exemple, tu vas au cinéma ou des choses comme ça?
Ah oui,
c'est alors, dans des cas particuliers.
Bah, au cinéma, j'y vais plus trop parce que je vais pas amener mon. Je vais pas entendre le son. Enfin, c'est assez pénible, mais ce sont les milieux bruyants les plus problématiques pour moi, c'est-à-dire les milieux bruyants, c'est globalement quand on sort en ville, dans la rue, une voiture, des voitures, et c'est les endroits où il y a beaucoup de monde. Mais un milieu bruyant, des fois, c'est aussi quand il y a deux personnes qui parlent ensemble. Il suffit de deux personnes. Si elles parlent ensemble, moi, j'arrive à comprendre ni l'une ni l'autre. Donc, voilà, je veux dire, dans toutes les situations du quotidien, il y a possibilité d'avoir des améliorations, sauf si je suis toute seule chez moi tranquille, où là j'ai besoin de personne. Mais je veux dire, dans chaque situation où on rencontre du monde, où on vit, enfin le quotidien, j'aurais besoin effectivement d'avoir des. Je peux améliorer mon audition, c'est clair.
Donc, développeur, personne ayant des compétences avancées en audio, y compris en audio plateau, sans forcément être dans le domaine du logiciel libre. On en parlait hors antenne. Visiter un plateau radio ou un plateau son, ça t'intéresse beaucoup, puisque en fait, il faut rematérialiser des plugins
pour mieux comprendre physiquement
les matériels. Si vous êtes également dans les matériels embarqués, c'est-à-dire les petits terminaux qui sont capables de traiter du son, venez aider Marie-Pierre sur le groupe Accessibilité de l'April, rencontrez-la cet après-midi lors de sa conférence qui a lieu à 14h et qui a pour titre Audition et logiciel libre. On reste dans le son. On va à l'autre bout. Tu disais que tu avais parfois des difficultés pour comprendre des personnes qui se parlent en groupe. Eh bien, de l'autre côté, il y a Rémi Samier qui a un petit peu un rôle pour faciliter la parole et l'audition. Et avant que je te demande de te présenter, tu t'es livré avant-hier au jeu du portrait geek et je te propose dans quelques instants de l'écouter. Le temps qu'on le retrouve dans la machine. Et ça, j'adore ce genre de situation.
Avec grand plaisir.
Allez, on va écouter tout de suite ton portrait. Bonjour, t'es qui toi ?
Rémi, orthophoniste et fan de logiciels libres.
Que fais-tu ici au Romeleleu ?
Je suis ici pour apprendre sur les logiciels libres d'accessibilité pour mes patients. Et puis j'interviens également pour faire une conférence sur l'enjeu des logiciels libres en orthophonie et pour les troubles 10.
Tu peux me dire ce que sont les troubles 10 ?
Alors c'est des troubles spécifiques du développement qui comprennent dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, dysphasie, dyscalculie et également dyspraxie et troubles de l'attention. Non, il n'y en a pas 10, je ne saurais plus dire le nombre. Mais voilà, c'est troubles qui sont spécifiques, c'est-à-dire qui sont durables et persistants, et pour lesquels voilà, on essaie de trouver des stratégies pour leur permettre d'avoir une scolarité la plus normale possible, et puis des logiciels pour compenser les difficultés résiduelles.
Est-ce que tu te souviens de ta première fois en logiciel libre ?
Ma première fois en logiciel libre ? Je pense que j'utilisais comme beaucoup des logiciels libres sans m'en rendre compte. Par contre, je me souviens de ma première fois où je suis passé sur Ubuntu. C'était pendant mes vacances de Noël en 2008 où là j'ai craqué. J'ai acheté un magazine avec un CD d'Ubuntu et je me suis lancé.
Si tu étais réincarné dans un logiciel libre, ce serait lequel ?
Anki. J'adore ce logiciel. J'ai écrit notamment une doc pour les orthophonistes pour l'utiliser. Il est tout ce que j'aime chez un logiciel. Il est extrêmement paramétrable, configurable, simple d'utilisation et il ouvre des perspectives énormes. Ouais, j'aime beaucoup ce logiciel.
Qu'est-ce qui t'agace le plus dans la communauté ?
Là, je saurais pas dire parce que je connais pas assez la communauté. Mais non, moi, ce que j'ai apprécié, enfin, c'est plutôt le contraire. Ce que j'ai apprécié, c'est que je suis arrivé au collectif Girol, qui est un collectif sur Bordeaux. Je connaissais quasiment rien et les gens m'ont vraiment accompagné, répondu à mes questions bêtes, sans jugement, sans rien. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très chouette.
Merci, tu es un gars positif. T'as répondu à la question suivante, en fait, hein, qui était qu'est-ce qui te plaît le plus ? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de rêver de communauté ou de choses communautaires ou de logiciels libres ?
Oui, souvent. ouais, là, la Framiki, j'en rêve pas mal. Et donc,
ça te travaille la nuit ?
Ah oui, ça me travaille la nuit. Je rêve même parfois que je code alors que je sais même pas coder. Donc, je rêve de mon terminal. Donc voilà, non, ça m'arrive. Je fais même des cauchemars. Une fois, je rêvais d'un terminal et puis le curseur marque « I will burn myself ». Et là, je me suis dit « Merde, mon ordinateur va brûler, c'est pas possible !» Là, je me suis réveillé en sueur. Donc, je fais des rêves assez chelous quand même sur les ordi et le logiciel libre.
Qu'est-ce que tu as fait de plus saugrenu dans le libre ?
De plus saugrenu Je dirais ce rêve.
Quel est ton troll préféré ?
Alors là, c'est vraiment le truc que je maîtrise pas du tout, la question du troll. C'est les gens me parlent de troller, mais je sais que c'est un truc où les gens sont pas d'accord et ça, et c'est des discussions interminables. Mais je sais pas, je suis pas dans le troll.
Quelle est ton expression geek favorite ?
Ah, je crois que c'est la citation de Linus Torvald, « Free software is like sex, it's better when it's free ».
C'est un portrait libre, et donc du coup au final, je te laisse le micro, et tu peux en faire ce que tu veux.
Alors, ça c'est un exercice difficile de se retrouver avec un micro dans les mains. Qu'est-ce que je peux en faire ? Un moment de silence. Parce que le silence est libre. Et il est précieux.
Voilà, les présentations sont faites, je crois. On a fait à peu près le tour de ton personnage.
Moi, j'aimerais savoir si c'est vrai l'histoire du cauchemar, là, des rêves. Parce que...
Oui, c'est une histoire vraie. Je pense qu'une histoire pareille, ça ne s'invente pas. Vraiment. Ouais.
Bon.
En fait, quand j'ai fait ces portraits, petite parenthèse, j'ai eu très très peu de personnes qui ont répondu à cette question-là. Beaucoup de gens, enfin les gens qui ont répondu à cette question-là ont dit « Bon, moi je le vis, donc j'ai pas besoin de régler des choses avec ça la nuit, donc je le vis au jour le jour, donc j'en rêve pas ». Et en fait, la question, on en parlera en antenne, était autobiographique parce qu'il y a quand même quelques personnes qui en général s'appellent Rémi et qui rêvent de logiciels libres.
Alors par contre, s'il y a un psychologue, un psychanalyste dans l'assistance, moi je veux bien avoir une interprétation de ce rêve parce que je pense qu'il est très riche au niveau symbolique.
Bien, donc Rémi, tu es orthophoniste.
Oui.
Pour pas mal de gens, c'est mystérieux l'orthophonie. Est-ce que tu peux un petit peu dire qu'est-ce qui s'y passe ? En fait, moi j'entends par exemple mes collègues dire « j'ai déposé mon enfant chez l'orthophoniste » ou « dans la famille, tonton a eu un AVC, il va chez l'orthophoniste, ça l'aide ». C'est quoi exactement ton métier ?
Alors l'orthophonie, ça consiste à prévenir, dépister, rééduquer, compenser les troubles du langage, de la communication, du raisonnement logico-mathématique, de la voix, et les gens qui ont une dysphonie, de la déglutition et des troubles de l'oralité. Là, je pense que j'ai fait une définition complète. Et ça s'adresse, je dirais, aux jeunes enfants, aux nourrissons, notamment pour les troubles de l'oralité et de la déglutition, jusqu'à la personne âgée, la personne en fin de vie, hein, pour tout ce qui va être les démences, les maladies neurodégénératives, etc. Donc on a un champ de compétences qui est très vaste sur une population qui va, j'irai du nourrisson à la personne âgée.
Et du coup, un peu plus concrètement, ton travail après, comment tu travailles avec les personnes, sur quel genre de matériel, comment se passe une séance chez l'orthophoniste?
Alors une séance chez l'orthophoniste, hein, on va travailler avec différents supports, hein, en fonction aussi des domaines dans lesquels on pratique. Ça peut être des gestes sur, par exemple, la voix ou les troubles de la déglutition et de l'oralité. Ça peut être des supports écrits, imagés, photographiques, sous forme de pictogrammes. Beaucoup de jeux, que ce soit avec des adultes qu'avec des enfants. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour jouer. Et puis le jeu, c'est quand même le vecteur pour développer son intelligence, pour développer du langage. Donc j'adore la dimension du jeu en rééducation. Ça va être également des logiciels qui vont me permettre de créer des supports, de créer des aides, de créer des entraînements spécifiques par rapport aux stratégies dont le patient a besoin pour réussir un certain nombre de choses. Et puis des logiciels, alors que nous, orthophonistes, on appelle de compensation, que les libristes appellent des logiciels d'accessibilité. Hein, et puis on peut aussi utiliser des appareils technologiques, hein, puisque pour certains patients pour lesquels il y a soit des handicaps moteurs importants ou un trouble sévère de la parole, on peut imaginer des synthèses vocales, des choses comme ça. Donc voilà, c'est très vaste, hein, les supports.
J'ai une question. Oui, dans le domaine de la rééducation auditive, donc est-ce que l'orthophoniste propose quelque chose?
Oui, tout à fait. Hein, puisque l'audition fait partie de notre champ de compétences, et au niveau donc de la déficience auditive, hein, on va travailler sur deux aspects en complément avec un appareillage. Ça va être de travailler à percevoir au mieux les différents sons de la langue, les discriminer et puis ensuite à bien les interpréter, et dans toutes les situations. En situation duel, mais en situation qu'on appelle nous effet cocktail party, c'est quand il y a du bruit ambiant autour. Mmh. Et puis on va également travailler sur les outils de suppléance, hein, au niveau de l'information orale. Hein, notamment, ça va être l'entraînement de la lecture labiale, enfin, notamment dans le cadre d'une surdité acquise, hein, donc qui arrive après le développement du langage oral, et qui permet donc de s'appuyer sur une lecture labiofaciale, hein, pour compenser les informations auditives qui seraient perdues, soit par un manque ou un défaut d'appareillage, soit par une situation vraiment trop gênante sur le plan du bruit ambiant.
Et côté, du coup, tu as parlé de logiciel, donc tu es ici aux Rencontres Mondiales du Logiciel Libre, tu vas faire une présentation donc sur les troubles 10, hein, logiciel pour les troubles 10. Tu vas travailler avec quel genre de logiciel? Qu'est-ce que ça t'apporte?
Alors, je vais faire une présentation qui est plus large que les troubles 10, mais je vais en parler. Alors moi j'utilise les logiciels libres, je dirais, du début jusqu'à la fin de mon travail. J'ai commencé à utiliser des logiciels libres d'abord pour créer mes jeux. Hein, j'ai fait mon premier jeu avec OpenOffice Draw, qui était un jeu type jeu de loi. Et voilà, c'était en mars 2009. Et j'ai recréé mon premier jeu. Donc au départ, en fait, les logiciels libres que j'ai utilisés, c'est vraiment beaucoup de logiciels de PAO pour créer des jeux de cartes, des jeux de plateau, etc. Et puis après, j'ai découvert Anki, hein, comme voilà le logiciel dans lequel je veux me réincarner.
Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'écrit, Anki?
A-N-K-I, c'est un mot japonais qui veut dire mémoriser. À la base, ce logiciel a été développé pour apprendre les langues idéographiques, type japonais, chinois. J'aime beaucoup ce logiciel parce que j'ai notamment étudié le chinois pendant quelques années, et qui est très simple puisqu'il repose sur le fait de montrer une information A, montrer une information B et mémoriser le lien entre A et B. Alors donc ça peut être le mot en français et puis le mot écrit en chinois par exemple. Mais on peut mettre ce qu'on veut dans l'information A et dans l'information B. Et derrière, il y a un algorithme de répétition en fonction de la facilité ou la difficulté que l'on a à retenir l'information. Donc c'est un outil génial pour créer des programmes d'auto-apprentissage, d'auto-mémorisation. Et ça, je peux l'adapter quasiment à tous les champs de mon travail en orthophonie. Et ça me permet, en fonction donc des difficultés résiduelles que j'observe chez mes patients, de construire un programme spécifique par rapport aux difficultés qui restent sur Anki, qui permet de lui développer un entraînement spécifique avec ce logiciel.
Est-ce que c'est un logiciel multiplateforme ou qui fonctionne uniquement sous Linux ?
Ah, il est multiplateforme.
C'est-à-dire Windows, Mac ou...
Windows, Mac, Linux, il fonctionne aussi sur des téléphones portables. Il y a même une version online.
On sait que tu l'adores, t'arrêtes pas de le dire.
Ouais, voilà.
Alors, sur la liste de l'April, il y avait une question un jour qui est arrivée d'une dame qui s'occupe d'une personne autiste et qui cherchait des logiciels qui pourraient l'aider pour l'autisme. Et je crois que tu avais répondu, plus ou moins. Par contre, la question que j'ai là, c'est ce logiciel, en fait, il est destiné à des pros? Ou est-ce que la question que se posent beaucoup de parents qui ont un enfant qui a des troubles 10 ou un enfant handicapé, est-ce qu'il est utilisable par une famille? C'est-à-dire, il faut de la compétence. Quels sont les logiciels qui sont adressés aux professionnels? Quels sont ceux qui sont adressés aussi aux familles éventuellement ou aux malades carrément? Elle est peut-être bête ma question. Hein.
Non, elle est très intéressante. Elle est très intéressante. Comme c'est des logiciels libres, ils sont accessibles à tous. Moi, le travail que je fais, je le publie également sous licence libre. Dans mon travail, j'ai une démarche pour impliquer les parents à comprendre ce que l'on fait et à pouvoir participer au travail de rééducation, compensation. Donc, ça m'arrive de leur présenter Anki, de voir comment ils fonctionnent.
Est-ce que tu mets ça sur l'ordonnance à la fin, justement, un petit peu d'Anki, une heure par jour?
Oui, je suis prescripteur, mais alors pas de médicaments, mais d'outils d'entraînement, de jeux. Hein, là, par exemple, j'ai beaucoup de patients pour lesquels j'ai fourni les jeux que je crée. Et puis, j'ai fait venir les parents en séance. Je leur ai dit, on va jouer ensemble. Je vais vous expliquer pourquoi ce jeu. Et puis, amusez-vous avec pendant les vacances. Ça va servir votre enfant. Et puis, c'est un moment d'échange, de jeu, de communication, de partage. Enfin, voilà, c'est... Et les gens adhèrent en fait complètement à ce type de démarche. Donc dire quels sont les logiciels qui fonctionnent, là je ne saurais pas le dire parce qu'il y a tellement de choses. Par contre, ça m'arrive quand je fais des formations ou des informations auprès des parents de présenter ce que j'utilise et puis de dire saisissez ces outils. On a vraiment besoin de créer du matériel, de créer des outils, de créer des jeux. Et c'est pas le monopole des orthophonistes. Donc vraiment, tout le monde peut participer à cette contribution et à ce partage. Strange tastes of velvet and hard stone. Capture if you can their fruit a looking glass on the other side. It's always better looking through someone other's eyes. Glimpsing in another room, I find you shining. So come closer into the cooler shade and see what I see. Tangle your mind simply. Maybe it's not so bad.
L'informatique, on n'y comprend rien.
All those savory tastes I need after all. I'm floating way above you, looking down curiously. Look, see me far away, lying back. Stare at the skies. It's time to call in all those favors. It's time to pay back. But it's all right, because it's all fire in my eyes from what I mentioned the other times. You might have been able to settle things long ago now.
So come closer and sit on my knee. You're comfortable, I promise I'll never turn away. Such a close friend in need. I never looked at you that way, so it's time to give in. It's time to raise the game. And we're floating way, way above you. We're looking down curiously. Look out, you'll see us there. Just fly back and stare at the sky. Just lie back, stare at the sky.
L'informatique, on n'y comprend rien, mais le logiciel libre, lui, est accessible.
Retour sur le plateau avec Marie-Pierre Bigeon, Rémi Samier, Yannick, je vais te rater à chaque fois, Pavard, et moi-même, Rémi, pour parler de audition et logiciel libre et enjeux du libre en orthophonie pour les troubles 10. De retour avec toi, Rémi, tu disais juste avant la pause musicale qui était, je cherche mon papier, « Fire in our house ». Eyes, autant pour moi, les yeux, de Azura. Donc tu disais juste avant la musique que communiquais cette envie, ce goût pour le logiciel libre et surtout l'utilisation des logiciels libres vers les familles. Donc j'imagine que si tu es là pour faire une présentation aux rencontres mondiales du logiciel libre ici à Strasbourg, tu as aussi fait un travail de capitalisation, un petit peu comme Marie-Pierre sur son projet, et tu dresses des appels ou de la documentation en tout cas, ou des actions vers la communauté. Quelles sont-elles? Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu?
Vers la communauté libre ou
vers la communauté des orthophonistes, vers le monde?
Alors moi, à la base, en fait, c'était vraiment mon objectif, c'était de partager auprès des orthophonistes. C'était ça l'objectif, c'est de leur dire voilà, il y a des logiciels libres, utilisez-les, c'est génial, ça vous change la vie. Et puis ça a pris une ampleur qui m'a dépassé, parce qu'au départ je pensais vraiment que j'ai fait un blog, j'ai fait aussi une page sur un réseau social, puis je pensais vraiment que ça allait concerner quelques personnes en France, et très rapidement j'ai vu que ça a diffusé au Canada, en Belgique, en Suisse, dans les pays du Maghreb, au Liban, j'ai même Israël, enfin des choses assez incroyables. Donc le projet a pris une ampleur qui m'a complètement dépassé en quelques mois. Et puis tout le travail qui a été fait, donc soit en création de matériel, en synthèse de connaissances sur les logiciels, hein, que ça soit pour créer, pour compenser, pour rééduquer. Hein, voilà, j'avais un projet depuis quelques mois qui était de réunir tout ça sur une clé USB. Et donc, notamment via le projet Framaki. Et voilà, les avancées de la Framaki avec la version bêta, puis la version RC1 qui vient de sortir au mois de juin, ça m'a donné un coup de boost avec aussi l'arrivée des RMLL. Et j'ai bossé dessus là à fond. Et donc là, il y a une version bêta d'une Framaki orientée orthophonie et logopédie, qui réunit tous les logiciels que j'utilise en version portable. Et l'objectif ensuite, notamment en travaillant avec des ergothérapeutes, ça va être de construire une Framaki orientée patient pour retrouver tous les logiciels d'accessibilité, notamment pour les troubles 10, puisque je bosse beaucoup dans ce domaine-là. Mais disons que là, une grande partie du travail est fait. Je voulais d'abord que les professionnels aient tous les outils à disposition,
les faire bien fonctionner, puisque là c'est une version bêta, et quand tout ça fonctionne bien, on pourra faire des déclinaisons avec moins de logiciels, hein, parce que un logiciel d'analyse psychoacoustique, le patient, je pense pas qu'il en ait besoin, mais voilà, des déclinés en fonction de différentes pathologies, de différents troubles, voilà, des Framaki pour les patients. Et là, moi, à destination de tous les professionnels de santé, des parents, des associations de parents, des associations de patients. Voilà, c'est ça l'objectif.
Et en fait, quand tu parles de Framaki, alors on pourrait mettre sur une Framaki des logiciels susceptibles d'améliorer l'audition. On pourrait faire une Framaki spécialisée audition, c'est ça dans le,
on voit l'intérêt tout de suite derrière.
Marie-Pierre fait son marché.
Alors, c'est envisageable. Là, bon, pour connaître ton projet, que je suis de façon voilà, très passionnée, là, pour le moment, la Framaki, c'est des logiciels hein, qui vont fonctionner sur Windows, hein, puisque c'est quand même la majorité du parc informatique. Et à ma connaissance, ceux que tu utilises sous Linux n'ont pas, à ma connaissance, mais je me trompe.
Est-ce que c'est des versions portables uniquement, c'est-à-dire qu'ils ne s'installent pas?
Oui, c'est des versions portables.
Donc ça diffère aussi.
Ah oui, mais je ne sais pas du tout. Oui, oui, bah effectivement, il y a des problèmes de compatibilité. Alors c'est ça, enfin, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas étudié.
Mais après, on pourrait imaginer faire, par exemple, une Framaki Ubuntu Remix ou une version, parce que je t'avais parlé notamment de Linux Tango Studio,
oui, oui, oui.
Qui intègre tous les logiciels de traitement de son, pour faire une live boot USB. Et pouvoir voilà, avoir tous les logiciels, les configurations pour avoir une version portable du traitement sonore. Notamment, j'avais cette idée-là par rapport à ton projet, parce que j'ai parlé de ton projet aux étudiants en orthophonie et ils participent aux Journées nationales de l'audition pour faire de l'information et de la sensibilisation sur les troubles de l'audition. Et je me disais, ben, pourquoi pas essayer de faire une version bootable de Tango Studio avec tes configurations pour mettre les gens en situation de déficience auditive. Ça pourrait être intéressant. Donc j'ai déjà l'idée en tête.
Il y a des choses à faire, quoi.
Mais je pense qu'il faut retenir là-dedans, c'est que si c'est pas Framaki, ça va être autre chose, une autre solution. Famidi, ça peut être sur une clé USB, tu as tout ce qu'il faut, tu le branches, ça démarre, c'est déjà fonctionnel.
Oui,
donc les solutions existent, oui, voilà. On est dans le libre, ça se construit assez facilement, ce genre de choses-là.
Je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit. Tu disais que ton projet partait un petit peu vers tous les pays. L'orthophonie, du coup, elle a des spécificités en fonction de la culture des gens. J'ai toujours remarqué, moi, que quand je parlais avec des personnes d'Asie, par exemple, on ne communiquait pas du tout de la même manière et les personnes ne pensaient pas du tout de la même manière. Et ça, je le ressens de manière évidente. Ça a fusé, ça, dans les communications que tu as eues, l'adaptation que tu as pu faire des outils ici en France pour des Français, ou tu as eu des questions spécifiques là-dessus?
Alors, pas pour le moment, puisqu'il y a énormément de gens, là, je sais, qui téléchargent les créations. Par contre, j'ai pas beaucoup de retours. Hein. Là, je sais que les Québécois suivent de façon très, très assidue le travail qu'on produit. Qui sont extrêmement intéressés. Là, j'ai vu qu'ils avaient beaucoup téléchargé la Framaki orientée orthophonie. En Belgique aussi, puisqu'en plus, en Belgique, il y a certains centres de formation qui ont des enseignements sur les logiciels libres utiles en orthophonie logopédie. Et après, je sais que ça intéresse énormément les pays du Maghreb, puisque là, ils sont vraiment en quête d'outils. Par contre, dans, j'irais, des pays où un peu le système linguistique sont différents, les codes sociaux aussi diffèrent, j'ai pas de retour. Donc je sais que de toute façon, je suis ethnocentré dans mon travail, hein, ça j'en ai conscience. Mais si on me donne des retours pour essayer d'adapter à d'autres cultures, à d'autres populations, je suis entièrement ouvert pour le faire.
Ton travail est accessible sur orthophonie libre en un seul mot.wordpress.com. Est-ce que tu as un appel à lancer pour la vie de ton projet là aujourd'hui à la communauté? De quoi as-tu besoin? Quel est un petit peu le futur? Comment tu vois la chose?
Alors, j'appelle à des développeurs puisque j'ai pas mal d'idées de logiciels et voilà, j'aimerais bien donc créer des logiciels spécifique à l'orthophonie pour la rééducation. Des logiciels pour la compensation, on en a besoin, notamment améliorer les voix en synthèse vocale et développer, s'il vous plaît, une dictée vocale, c'est-à-dire je parle et ça écrit. La seule solution pour le moment qui fonctionne, elle est propriétaire. Et je rêve d'une dictée vocale libre. Aussi, par exemple, sur les troubles 10, une des aménagements scolaires proposés, généralement, ça va être l'utilisation d'ordinateurs avec dictée vocale, synthèse vocale, etc. Et à l'heure actuelle, les solutions proposées sont des solutions propriétaires sous Windows. Et mon rêve également, ça va être de proposer des solutions libres qui seront moins onéreuses et aussi beaucoup plus stables et fiables. Parce que malheureusement, il m'arrive très souvent de devoir dépanner les ordinateurs de mes patients qui ont planté à cause de virus informatiques. Donc je rêve d'une distribution orientée trouble 10 Linux pour ça. Et puis après, voilà, il y a un gros succès, j'irai international là, du projet. Par contre, j'irai la deuxième phase a un petit peu de mal à s'enclencher, mais ça commence. Voilà, c'est avoir des retours, des contributions, que les gens, voilà, s'approprient les outils et soit les modifient, soit les améliorent, soit partagent aussi leurs propres créations. Voilà, moi, mon rêve, c'est qu'il y ait vraiment une communauté de contributeurs, tant au niveau matériel qu'au niveau logiciel dans le domaine de l'orthophonie. Et là, je vais faire tout ce que je peux et mes quelques collègues aussi qui sont impliqués dans le projet pour arriver à monter cette communauté.
Tu as prononcé le mot, le cauchemar que tu décris dans ton portrait se transforme en rêve. C'est magnifique. Merci beaucoup à vous trois.
Merci. Merci.